Julia Kristeva, bonjour.
Bonjour.
La crise sanitaire que nous sommes en train de vivre, que d'aucuns appelleront guerre virale, est un traumatisme pour tout le monde, en tout cas une découverte collective de notre fragilité.
Oui, absolument. C'est en tout cas une question de vie et de mort. Et nous avons essayé de donner d'abord la priorité à la vie au détriment de l'économie. Et maintenant, on cherche à ranimer cette anesthésie économique. Mais il reste un autre pas à faire, tout aussi important, c'est de s'adresser à cette fragilité humaine, car il s'agit bien d'un désastre humain derrière les statistiques, et de ne pas réduire la vie à l'organisme biologique, mais de voir dans la vie une quête de sens, une quête de reconstruction de soi. Les anciens séparés faisaient une différence entre la zoé, qui est la vie organique, et le bios, d'où la biographie, qui est l'expérience intérieure. Et je reprends ce mot tout en me rendant compte que dans le tsunami des mesures et de la macropolitique qui se consacre à la pandémie, il est très difficile d'entendre cette nécessité d'expérience intérieure qu'il faut sauver, mais je persiste et je dis que c'est ça la priorité actuellement.
Il y a, dit-on, un avant et un après, donc nous nous comporterons plus tard comme des survivants.
Nous nous considérons comme survivants, et encore une fois j'insiste sur cette idée de qu'est-ce que c'est la survie. Je vais l'entendre comme une approbation de la vie jusque dans la mort. Et j'entendais ce matin un intervenant, je crois que c'était un médecin interne qui soignait les personnes qu'il avait à sa charge et leur faisait entendre de la musique. Et bien ouais. C'est cette contestation absolue à partir de laquelle je refuse de me replier sur moi-même et mes repères pour m'ouvrir, pour m'immerger dans la vie intérieure des autres, en moi et en eux, pour les réparer, mais pour réparer aussi leur capacité de penser, de sentir, d'être créateur. Et c'est ça, je crois, qu'il faut comprendre dans cette nouvelle phase de la bataille contre la pandémie, faute de quoi les survivants seraient éventuellement capables de s'adapter à l'accélération du capitalisme numérique qu'on nous promet après le capitalisme sans frein pour le jour d'après, n'est-ce pas? Mais on n'aura pas d'humains capables de se refaire, de rebondir. J'insiste
l'humain
beaucoup sur cette nécessité d'entourer les survivants avec des soins psychiques qui passent pour moi par deux expériences qui m'ont été données, la psychanalyse, l'écriture, mais il y a sans doute d'autres.
Ah, il faut donc apprendre découvrir en tout cas son soi confiné. Vous êtes effectivement psychanalyste, vous continuez à exercer par téléphone avec ceux de vos patients qui sont d'accord. Qu'est-ce qui domine? Qu'est-ce qui vous disent en premier lieu?
Mais écoutez, l'angoisse est tellement aiguë qu'elle en appelle aux ressources insoupçonnées de ces hommes et de ces femmes qui me font confiance pour venir se refaire, se réparer, rebondir auprès de moi. Ce sont des gens en effet fragiles. Vous avez évoqué au début de notre conversation cette fragilité qui apparaît maintenant, mais qui ont fait le pari qu'il est possible de rebondir. Je vais définir donc ceux qui viennent s'engager dans une psychanalyse comme ceux qui espèrent pouvoir affronter le jour d'après. Ce qui fait qu'ils ouvrent une brèche dans le confinement, ils posent sur la table ou l'oreille du lit des internautes stressés et coincés qu'ils sont par ailleurs. Ouais. Et ce même objet qui pouvait être un geste de protection est désormais oublié, et il facilite en fait le besoin et le désir de trouver ses traumatismes, de faire tomber le masque, de parler seul à seul et pour de vrai. pour ne pas faire semblant, pas de défense mondaine. Chacun découvre quelque chose d'intime qui est partageable, dedans et dehors, faisant appel à la vitalité de l'analyste. Et j'ai l'impression que, évidemment, nous ne produisons pas de vaccin. Ce n'est pas un anticorps qui s'élabore ainsi dans cette mutualité nucléaire entre l'analyste et l'analysant, mais un véritable contrefort, on va dire, psychosomatique qui repousse l'effondrement qui est produit par l'attaque virale, par la désocialisation confiante, et une espèce d'érotisation du lien qui donne beaucoup de vitalité. On peut parler de ses traumas, on peut parler de ses désirs sexuels aussi, comment refaire le couple, comment réparer le couple parental aussi, qui a donné des traces dans la psyché morcelée et en souffrance. Et tout ça, c'est une véritable reliance nucléaire qui s'établit par la parole. Je crois que, on parlait de nouveau monde qui était réinventé, il faudra que ce soit un lien de parole déployé, de reliance, de confiance, et rentrer jusqu'à ce que j'appelle la chair des mots, qui est les passions dans les phrases, les pulsions, pulsions
Julia de vie, Christéva. Pulsions de mort. Éric Delvaux le disait en vous présentant tout à l'heure, vous publiez un livre chez Buchet-Chastel, Dostoïevski, dans la collection Les auteurs de ma vie. Dostoïevski qui est un auteur qui vous a choqué au bon sens du terme, absolument ébloui. C'est un visionnaire en la matière, puisque est-ce qu'il a dit des choses, écrit des choses qui nous concernent, nous, aujourd'hui, avec ce qui nous arrive?
C'est un auteur qui est en effet un grand nom du panthéon de la littérature mondiale. C'est un ogre russe absolument terrible, parce qu'il s'attaque à des problèmes de vie et de mort justement qui nous concernent aujourd'hui. C'est un survivant du bagne. Il a été envoyé en Sibérie parce que il était habité par les idées françaises de liberté contre le tsarisme, contre l'esclavage. Et c'est quelqu'un qui est en même temps extrêmement moderne, et c'est sa modernité que j'essayais de faire apparaître, qui est assez peu connu. Par exemple, il a beaucoup été attentif à la dignité, le combat, le respect que suscitent les femmes, mais qui sont en même temps violentées, réprimées. Et c'est un de ses grands thèmes, c'est le féminicide, par exemple. Oui. Bien sûr, la criminalité, mais même la pédophilie. Et aussi la beauté qui va sauver le monde. Ça va dans le sens de cette vie intérieure dont je dis que c'est le problème d'aujourd'hui. Mais il dit que la beauté est une chose terrible, parce que ça commence par la Madone et ça se termine par Sodome. Mais il ne faut pas éviter ces contrastes. Il faut les affronter avec
intensité. Et puis après tout, l'humanité, c'est celle que chacun se crée. Il y a une très belle phrase dans votre livre que je voudrais citer. L'homme est malheureux parce qu'il ne sait pas qu'il est heureux. Je trouve cette phrase absolument superbe. Merci beaucoup, Julia Christeva, d'avoir été notre invitée ce matin. Merci.